Bienvenue dans Les Voix du Digital, le podcast qui vous fait découvrir le numérique, ses actualités, les hommes et les femmes qui le construisent sans complexe et de manière alternative. Je suis Alain Garnier, cofondateur de Jamespot, la plateforme collaborative pour les organisations tournées vers le futur. Futur qui est déjà maintenant si on regarde bien. Et avec mes compères des podcasts, on vous donne les clés de demain. Fermez les notifs, ouvrez les oreilles, c'est parti. Bienvenue dans Au-delà du live, le numéro 22. Et oui, nous allons explorer au-delà du live toutes les curiosités numériques et revenir sur le mois passé et tout ce qui s'est passé dans le numérique. Et je ne suis pas seul, je suis avec mon compère Benoît. Salut Benoît.
Salut Alain, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 22.
Mais oui, alors on en a des sujets, parce que j'ai vu tous les sujets effectivement que tu as, comme d'habitude, travaillé. Et on va les prendre un par un, mais il y a du lourd ce mois-ci, il y a du lourd. Alors qu'on commence par du lourd, on va parler des GAFAM.
Évidemment, et tu l'as bien deviné Alain, on va parler d'un constat qui est tiré d'une étude réalisée par le cabinet Marques et qui n'est pas très réjouissant, puisqu'il concerne, comme tu l'as dit, le marché du cloud et qui pose un peu le constat comment est réparti le marché du cloud. Et donc, l'année dernière, en 2021, sans surprise, j'ai envie de te dire, Amazon, Microsoft et Google ont capté 80% de la croissance des dépenses françaises en cloud public d'infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude de Marques pointe du doigt que AWS est désormais présent dans toutes les strates de l'économie française, depuis la PME jusqu'aux très grandes entreprises, en passant par les éditeurs et les startups. Voilà, ils sont partout. Et Microsoft est quant à lui le champion incontesté de la croissance l'an passé, avec une croissance de plus de 53%. Je terminerai en précisant que les prestataires de cloud européens que l'on connaît bien et que l'on salue, que sont OVH, 3D Outscale, Oracle, Scaleway ou encore Orange Business Service, ne captent quant à eux que 29% du marché français, incapables, je cite d'après Marques, de rivaliser avec les investissements colossaux des GAFAM. Quel est ton avis sur ce constat, Alain, et ces chiffres qui, on ne va pas se le cacher, reviennent, j'ai l'impression, un peu chaque année comme une vieille routine.
Alors, vieille routine comme le cloud qui commence à être vieux maintenant, ça prouve que c'est une industrie mature, ça c'est clair. Non, le cloud fait pire que le logiciel quand même, parce que nous, à un moment donné, on avait calculé avec Eiffel qu'il y avait 76% du logiciel qui était du logiciel en France acheté aux US. Et donc, on est passé à 80% pour le cloud. Donc, c'est de pire en pire par rapport à ça en termes de valeur. Donc, on pourrait effectivement, tu vois, s'en arrêter là et se dire, la prochaine vague, ce sera 85%. Et puis voilà. Sauf que non, justement, il y a à un moment donné une prise de conscience et un retour vis-à-vis de ça. Alors déjà, parce que nos amis du cloud public continuent à progresser, mais on a des acteurs, par exemple, pas plus tard encore qu'hier, on voyait Scaleway qui avait beaucoup d'éléments de croissance parce qu'il commence à rivaliser en termes de prix et de capacité. Et justement, l'argument de Marques qui est de dire avec tous ces investissements, c'est fini. Dans ces cas-là, IBM serait encore dominant sur le monde numérique, sur le monde informatique, parce que IBM avait plus d'argent que tout le monde. Aujourd'hui, IBM, tu demandes à un gamin, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, ça, il faut un peu s'en méfier de ce genre de truc. Ce n'est pas parce que tu mets de l'argent que tu es intelligent, tu vois. Ça aide, parce que vaut mieux être riche que pauvre et malade, comme disait Coluche. Mais par contre, clairement, il y a des contre-feux. Et ces contre-feux, ils sont mis en place aussi pour des raisons de lutte anticoncurrentielle, parce qu'ils ont gagné aussi cette position en ayant des pratiques qui n'étaient pas toujours très loyales. Et puis aussi parce que la Commission européenne a décidé que siffler la fin de la partie avec le DMA, avec le Data Act, et puis parce que l'État français a décidé d'ajouter souveraineté numérique au nom du ministre, à Bruno Le Maire pour ça. Donc quand tu prends l'intégralité de tout ça, tu te dis que ils sont peut-être à 80%, mais ils sont au maximum aujourd'hui de leur puissance. Maintenant, la décrue va commencer à démarrer.
Merci Alain. Justement, tu parlais justement de pratiques anticoncurrentielles et on parlait d'éditeurs américains. On n'a pas tout à fait fini. Parce que pour le sujet suivant, nous allons parler de Microsoft. Microsoft qui, au vu des dernières actualités du mois de mai, semble a priori, tu vas me dire ce que tu en penses, disposé à faire changer les choses, dont certaines de ces pratiques pour aider justement directement les fournisseurs de cloud européens. Alors, il faut rappeler que depuis quelques mois, une coalition d'une trentaine d'entreprises et d'associations du secteur justement des outils collaboratifs ont mené la charge en déposant une plainte antitrust devant la Commission européenne, justement, tu en parlais, et également l'autorité allemande de la concurrence. Donc ça, c'était en fin d'année dernière. Il y a différentes procédures qui ont suivi. Hein. En janvier, c'est l'autorité de la concurrence qui s'était auto-saisie afin d'évaluer justement la situation concurrentielle dans le cloud. On a également OVH Cloud qui a déposé plainte auprès de la Commission, justement, et d'autres encore. Et depuis, il y a un élément un peu surprenant qui est venu secouer tout ce beau monde, puisque c'est Brad Smith, donc le président de Microsoft himself, qui a déclaré dans un post de blog durant le mois de mai, je le cite, « Nous avons estimé que bien que toutes ces affirmations ne soient pas valides, certaines d'entre elles le sont. Et nous apporterons évidemment des changements bientôt pour y remédier. » Donc le Microsoft a ensuite expliqué vouloir aider les fournisseurs de cloud européens à héberger plus facilement une grande variété de ses produits. Oui. Je sais que tu as fait une tribune qui ne devrait pas tarder à sortir dans le magazine Alliance, justement, où tu piques un petit peu Microsoft là-dessus et tu dis « on demande à voir ». Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Regarde, je fais le lien avec le sujet précédent. Alors déjà, incroyable, Microsoft qui fait amende honorable, c'est la première fois. Donc effectivement, plutôt que d'attendre le procès qui dure 15 ans et à la fin où ils disent « Oups, I did it again », comme la chanson qu'on connaît bien, du coup là, ils anticipent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont vraiment peur du démantèlement. Ils ont peur que là, pour le coup, on se fâche un peu rouge parce qu'ils sont allés un peu trop loin. Et les 80% les fameux Cloud GAFAM renvoient à ça. Sur ce, à un moment donné dans un marché, quand tu dépasses un pourcentage de part de marché, tu as tout le monde qui tombe dessus. Les États comme les individus, comme les entreprises. Et donc, Microsoft a bien compris ça, parce qu'effectivement, c'est peut-être le plus raisonnable, c'est le plus vieux aussi de tous les acteurs en présence, des GAFAM, hein, je ne vais pas me tromper. Et donc, il sait combien justement ces parts de marché peuvent être dangereuses et se retourner contre lui s'il va trop loin. Donc là, il a dépassé des limites. Par exemple, le fait qu'il donne Teams à tout le monde en bundle avec Office 365, qu'il oblige les gens avec l'annuaire à passer dans le cloud avec Office, enfin tout ce qui a fait sa politique qui l'amène aussi à la position où il est, et non pas juste parce qu'il a des super grosses machines, et bien effectivement, là, il est en train de faire machine arrière. Bon, maintenant, quand quelqu'un qui a fait quelque chose dont il sait que c'est répréhensible, dont il sait qu'il bénéficie, te dit « Oh, désolé, je vais faire attention, je vais voir ce que je fais », dans ces cas-là, on appelle ça en justice une période probatoire, c'est-à-dire qu'à partir de là, s'ouvre une période dans laquelle on va attendre des actes. Parce que moi, les paroles de Microsoft ne suffisent pas, mais par contre, je reconnais que c'est déjà énorme. C'est arrivé la même semaine, d'ailleurs, que l'histoire de souveraineté numérique dans le poste de ministre. Pour moi, ça a été deux moments très, très importants parce que c'est la reconnaissance d'une situation biaisée et problématique dans notre marché du numérique, qui n'était pas acceptée ni par les pouvoirs publics, ni par les acteurs qui en étaient fraudeurs. Là, c'est le cas. Microsoft, d'un côté, dit « Oui, d'accord, on a un peu déconné, on va faire attention et on va arrêter d'écraser les acteurs locaux. » Et deux, on a le gouvernement qui dit « Les acteurs locaux, c'est important, on va travailler à ce que ça devienne un élément central de notre politique. » Moi, quand les planètes sont alignées comme ça, je sors avec mes lunettes la nuit pour profiter justement de l'éclipse, tu vois, et de cette beauté que la nature nous donne.
Merci Alain, on verra effectivement si les propos de Microsoft sont suivis d'actes concrets. Alors pour le troisième sujet Alain, c'est un sujet que j'avais vraiment, vraiment hâte d'aborder avec toi et tu vas très rapidement comprendre pourquoi, parce qu'il est directement lié finalement à l'histoire de JSPOT, c'est celle du RGPD. Le RGPD, le règlement européen pour la protection des données personnelles que vous connaissez déjà sans doute, chers auditeurs. Il y a justement le baromètre RGPD 2022 qui a été réalisé par Data Legal Drive, et oui, Data Legal Drive que l'on salue. Hein. Je te laisserai expliquer pourquoi Alain on les connaît et comment on les connaît, justement, et qui ont sorti un baromètre très intéressant car il s'est intéressé en fait à l'état d'avancement de la mise en conformité des entreprises 4 ans après la mise en application du RGPD. Hein. On rappelle que le RGPD est entré en application au courant de l'année 2018. Comme d'habitude, pour vous, chers auditeurs, quelques chiffres. 43% des entreprises sondées. Pour 43% des entreprises, la mise en œuvre du RGPD est devenue une véritable démarche transverse et permanente. Plus de 50% des entreprises affirment aujourd'hui avoir un niveau de conformité qui est avancé, donc le baromètre situé entre 50 et 80%. Également que 74% des répondants estiment que les salariés sont plus attentifs à la protection des données personnelles par l'entreprise, voilà que c'est un sujet important. Et alors là, ça, voilà, je l'ai mis, j'ai sélectionné ce chiffre. Il y a beaucoup de chiffres hein, dans le baromètre, évidemment. Je vous encourage à aller la consulter. C'est Google Analytics, qu'on rappelle, qui a été jugé par la CNIL comme étant pas du tout conforme au RGPD en février dernier. 40% des entreprises interrogées envisagent de migrer vers d'autres solutions, donc plus conformes et recommandées par la CNIL, tandis que 25% espèrent quand même pouvoir continuer à l'utiliser avec un petit paramétrage, si aussi possible, Google. Comme ça, on continue et on fait comme s'il ne s'était rien passé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce constat-là, Alain, et de ce baromètre ?
Ah bah écoute, déjà, merci à Data Legal Drive de faire ce travail-là. Alors oui, on les connaît très très bien, parce qu'à un moment donné, on avait lancé, nous, Captain DPO, justement, pour aider les DPO à se mettre en conformité au sein de GenSpot, qui avait eu un beau succès. Et comme on n'est pas des spécialistes du monde juridique et que la boîte grandissait, bah justement, on a dit, bon allez, on va justement voir quel est le leader du marché qui est en train de se profiler. Et c'est nos amis de Data Legal Drive qu'on avait choisi comme compagnon de route et à qui on a revendu d'ailleurs Captain DPO. Et je salue et Sylvain Staub, fondateur, et bien connu maintenant de la place sur ça, et toute son équipe hein, qui fait un travail d'ailleurs remarquable. Et d'ailleurs, là, il fait un travail pour éclairer. Merci à eux. Et donc oui, moi, ce que je vois, c'est que il y a une maturité qui progresse. Et donc ça, c'est très bien, d'autant plus que le RGPD nous protège. Je ferai le lien avec quand même, justement, le fait que les outils américains, n'étant pas conformes au RGPD, bah, ils sont en risque, CF Google Analytics. Et donc, on peut remercier aussi Max Schrem, le fameux étudiant, d'avoir fait cette attaque, pour justement arrêter, que nos données soient pillées. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, tu dis par exemple Google Analytics, pourquoi les gens le regrettent ? Ben parce que c'est vrai que Google Analytics, c'est pas mal, c'est gratuit, c'est sympa, quoi. Voilà. Mmh. Après, il se trouve que c'est toi le produit, on pique tes données, que grâce à ça, Google te traque partout. Mais bon, c'est pratique quand même pour les gens qui ont des sites. Et il y a une logique freemium. Et au milieu de ça, par exemple, tu vois, je voulais aussi saluer, parce que c'est apparu dans le baromètre, dans les chiffres que tu as dit, il y a 70% qui ont mis en place un système pour gestion de cookies. Tu sais, les fameux cookies pour dire j'accepte les cookies, oui, non, etc.
Oui, oui, oui.
Un autre acteur avec lequel on avait bossé à l'époque de Captain DPO, parce qu'on les salue également, ils avaient fait la carte des DPO. Romain et Guillaume de la boîte s'appelle Acceptio, a fait un boulot remarquable sur ce sujet. On parle justement toujours des boîtes américaines, mais d'un côté, Acceptio a fourni justement un outil pour que les gens mettent, vous savez, salut les cookies, un petit truc qui apparaît en bas, qui est toujours bien fait, propre. Et ben ça, c'est les équipes d'Acceptio qui ont fait ça, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, les sites français sont en conformité. Donc, merci et bravo à Acceptio pour ça. Et d'ailleurs, ils ont une version aussi freemium. Donc, on voit bien que quand l'Europe est puissante, et donc là, évidemment, avec 20% de part de marché, c'est pas facile d'être puissant, mais si tu as 50%, voire même ouais, que la moitié déjà de la part de marché, mais tout d'un coup, on aurait des capacités au-delà de ce qu'on imagine. Et avec des gens qui font des trucs incroyables. Acceptio, c'en est un bon exemple pour les cookies, mais également, par exemple, ce que fait Data Legal Drive pour le RGPD avec les équipes de Sylvain. Donc voilà, je trouve que là, on voit vraiment l'émergence. Quand on disait tout à l'heure, les choses changent, ben voilà, on met en place le RGPD, ben, il se trouve qu'on a là deux boîtes qui vivent avec cette dimension-là, pour venir tous nous aider et qui ont une magnifique croissance et nous aident au quotidien. Donc, je pense que ça montre bien qu'on est en capacité de gérer et de faire tout ça.
Merci Alain, on salue encore une fois Data Legal Drive, les équipes de Data Legal Drive et d'Acceptio. N'hésitez pas à aller sur le site de Data Legal Drive pour consulter le baromètre 2022, il est très intéressant, vous avez des chiffres, des analyses de résultats, des avis d'experts, donc vous aurez de quoi faire. Alors, maintenant, là, on va parler de quelque chose que l'on connaît bien, bien sûr. On vient de parler de la mise en conformité des organisations. On va parler d'un autre processus de transformation qui est bien connu, c'est la transformation digitale des organisations. C'est un article sur lequel je suis tombé. C'est Anthony Seffer, qui est le DSI de Valument, qui est un cabinet de conseil dans l'analyse de données, qui s'est posé la question, mais tiens, quels sont les obstacles, en fait, à cette évolution, à cette transformation digitale? Et il a cherché à comprendre pourquoi, en fait, des centaines d'entreprises ont raté ce virage en se basant à la fois sur sa propre expérience, sur celle des clients de son entreprise et sur celle de ses pairs DSI. Et alors, je vais te les lister et je te laisserai évidemment rebondir, me dire ce que tu en penses. Hein. Donc, il y en a 7 pour le coup.
Comme les 7 quoi, les 7 mercenaires, les 7...
C'est un peu ça, ouais. Il y a un petit côté... Il y a un petit côté filmographie pour le coup. Alors, le premier, c'est la complexité des processus. Un manque de ressources ensuite et de compétences internes, une résistance au changement, un manque de budget, la gestion de la cybersécurité, la cohérence globale du projet de transformation, et enfin le manque d'implication du leadership. Qu'est-ce que tu évoques justement ces différences-là, justement ces 7 mercenaires? Est-ce qu'il y en a pour toi un qui est plus important que d'autres? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ressortent? Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est intéressant, on t'a dit effectivement, il est plutôt côté DSI. Il y a deux choses. Déjà, le why, pourquoi est-ce qu'on est dans cette transformation digitale et pourquoi c'est si important? Ben, c'est clairement ce qu'on voit autour de nous et la conviction que il faut tout inventer dans le digital aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'on voit. Donc, la transformation digitale, c'est un élément essentiel si on veut tout simplement faire évoluer son business. Alors, on l'a vu, évidemment, avec la pandémie, c'est devenu évident, mais c'est le cas aussi pour le e-commerce. On le voit pour tout ce qui est logique de livraison. Les clients, ils veulent aujourd'hui avoir des petits SMS pour leur dire, bah voilà, t'en es là, tiens, tu vas recevoir ton truc. Enfin, il y a vraiment une logique aujourd'hui digitale importante. Donc, ça, c'est le why, quand même, il faut revenir à ça, hein. On ne fait pas de la transformation digitale parce qu'on s'emmerde le week-end et qu'on a que ça à faire. Bon. Le deuxième truc, alors moi, ben pendant que tu les listais, tu vois, je fais des petits comptages. Écoute, il y en a 5 RH quand même. Un,
Oui.
l'argent, et un, risque cyber qu'on peut mettre soit dans les risques RH, j'ai peur, soit dans le côté technique. Ça dépend si tu te lèves le matin ou le soir, tu vois. Mais c'est net. Les obstacles aujourd'hui, et ça, c'est vraiment ce qu'effectivement je ressens. Au fond, si on veut simplifier, la technologie aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi en avance pour proposer des capacités pour les entreprises. D'autant plus que dans le B2C, on fait des choses incroyables. Par contre, est-ce qu'elles sont déployées dans les entreprises? Non. Les gens continuent encore à prendre des outils et à télécharger des bouts d'Excel et faire des listes et continuent encore à écrire des docs sans se mettre à plusieurs pour le faire. Tu vois, je parle de la collaboration, bien sûr. Ils se mettent encore à gérer des tâches à la papa en se mettant des to-do et non pas en créant justement des systèmes intégrés. Bon, donc on a énormément de sujets à faire de transformation digitale qui sont vraiment avec des problématiques, oui, de complexité. Et de résistance au changement. Et moi, c'est marrant parce que je prends les trois points, tu vois, manque de ressources, complexité, résistance au changement et leadership. En fait, pour moi, c'est marrant parce que tout ça, c'est la même chose. Je te le reformule. On attend tout du chef où il n'y a pas assez de chef pour régler un problème compliqué alors qu'en fait, il faudrait le simplifier. Et ce qui crée une grosse résistance au changement, d'autant plus qu'on manque de ressources pour s'y mettre. Tu vois, quand je te fais cette phrase-là, tu as l'impression d'avoir l'avis de plein d'équipes.
Oui, clairement, c'est un
Tu
seul et
vois?
unique problème
Et
finalement.
d'ailleurs, quand je dis plein d'équipes, même à JSpot, nous, ça nous arrive, hein, tu vois, je suis pas en train de donner des leçons aux autres. Et donc, le truc, c'est de se dire, mais en fait, sur chacun des leviers, on peut jouer. Par exemple, faut faire des couples sympas, tu vois. Du genre, ah, mais si tu veux éviter la résistance au changement, bah, augmente un peu tes ressources, tu verras, les gens, ils seront plutôt OK à moins bosser. Ah non, mais si tu veux éviter la résistance au changement, bah, si ton leadership, ton chef ou ton leadership, c'est-à-dire dans l'équipe, on faisait en sorte qu'on ait moins de complexité, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Plutôt que de toujours compliquer tout. Et qui fait qu'après, la transformation digitale, elle est encore plus compliquée, parce que ce qu'on a mis sur la table, c'est encore plus compliqué que ce qui est compliqué. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment dans ce truc-là, en fait, plutôt que de les lister comme ça, je trouve que c'est vraiment la question de l'articulation de ces problématiques qui est le sujet central de tous les managers et tous les dirigeants. Voilà. Et tu vois, il y a aussi la cohérence, tu vois, je pourrais jouer avec la cohérence, tu vois. Monsieur chef leadership, soyez cohérent dans les ressources que vous rajoutez pour éviter de la complexité. Tu vois, par exemple, en disant ça, je pense qu'il y a plein de gens d'un coup qui se disent, ah mais oui, moi en fait j'ai rajouté une personne dans mon équipe, en fait ça a mis plus de bazar que ça a résolu de problème. Pourquoi? C'est pas la personne. C'est parce que justement, ça a créé de la complexité là où il n'y avait pas besoin, une décomposition de rôle qui n'était pas utile, etc. Donc je trouve que ça nous emmène vraiment, c'est des clés de lecture. En jouant avec ces 5 mots, tu vois, on devrait en faire des petites cartes et en tirant au hasard, j'en suis sûr que tu résous mais 80% des problèmes des équipes. Donc merci à. Je n'ai pas noté son nom, hein, pour le redire.
Anthony Seffer.
Et ben voilà, bravo, hein, Anthony, parce que il faudrait transformer quasiment ça en un jeu de cartes, si tu vois ce que je veux dire, tu vois.
Ouais, très vrai, ouais, effectivement. Effectivement. Merci Alain pour cette analyse sur les obstacles de la transformation digitale. On espère, bien sûr, chers auditeurs, que votre transformation digitale, la transformation digitale de votre organisation, se passe dans les meilleures conditions.
Sinon, vous appelez le 15, hein, vous appelez tout de suite le SAMU, le 15, et on
Il existe un numéro d'urgence, sachez-le, pour la transformation digitale. Voilà, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer.
On vous envoie un hélicoptère rempli d'API et de plateformes collaboratives pour régler tout ça.
Exactement. Merci Alain. On attaque maintenant le dernier sujet avant la traditionnelle surprise. Celles et ceux qui suivent Au-delà du live le savent bien. On termine avec un sujet un peu mystère qui est généralement d'ailleurs positif. Mais avant de s'attaquer à celui-là, j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet Alain, parce qu'il a vraiment, vraiment marqué le mois de mai et l'actualité du mois de mai. Si vous avez investi de près ou de loin dans les crypto-monnaies, vous savez sans doute déjà que le mois de mai a été un mois particulièrement difficile pour le marché. Trois événements principaux qu'on peut citer. Le cours du Bitcoin, donc là, évidemment, la crypto-monnaie la plus connue, est tombée à 26 000 dollars. Hein, donc, pour rappel, ça faisait plusieurs années que le cours du Bitcoin était aux alentours de 50 000 dollars, à peu de choses près, bien sûr. L'Ether, qui est une autre crypto-monnaie majeure, a perdu 30% de sa valeur. Et enfin, et surtout, l'événement qui a eu l'effet d'une véritable bombe, c'est la chute de la crypto-monnaie Luna, qui a tout simplement totalement implosé, hein, qui a perdu 99,8% de sa valeur le 12 mai dernier. Donc pour rappel, Luna, c'était une crypto-monnaie qui était à 0,86 centimes début 2021 et qui est arrivé à 86 dollars de valeur à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un projet qui a vraiment ramené pas mal de gens, qui a suscité beaucoup d'espoir et qui a connu une véritable chute à la verticale. Tous ces éléments mis bout à bout, en fait, marquent aujourd'hui, selon certains, la fin des crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies, c'était bien gentil, on s'est bien amusé, mais maintenant, circuler, il n'y a rien à voir, messieurs, dames. Comment est-ce que tu perçois ces événements, Alain, et même au-delà de ça, comment est-ce que tu perçois de façon générale le monde des crypto-monnaies et son évolution ?
Vaste sujet. C'est intéressant parce que tu vois, tu as cité plusieurs cas. Et par exemple, tu vois, tu as la crypto-monnaie la plus emblématique, hein, la plus historique. Elle n'a perdu que 50% de sa valeur, d'accord ? Et non pas 99,8%. C'est-à-dire que justement, c'est là où il faut revoir ça avec un peu de contraste. Si on revient au fondamental de tout ça, moi, je pense que les cryptos sont là pour longtemps. Je ne pense pas qu'elles sont là de manière éphémère. Par contre, elles peuvent muter. Par exemple, c'est sûr que passer de la fameuse proof of work qui consomme des machines pour faire de la preuve, qui consomme bêtement, à la proof of stake qui permet justement de le faire sans consommer autant de ressources. Voilà, il y a des évolutions, tu vois, profondes des cryptos. Bon. Ensuite, le fait qu'il y ait justement une explosion du nombre de cryptos et que ça devienne même n'importe qui peut créer une crypto, ça aussi, ça évidemment, ça crée la volatilité de marché et non pas évidemment de la stabilité, d'accord ? Et donc après, si tu veux, une fois que tu as dit ça, je dis juste, c'est comme si tu avais dit, ah là maintenant, il y a des entreprises, il y en a qui ont fait faillite, tu comprends, mais les petites, il y a des grosses, mais en fait, tout est pareil. Non, c'est pas la fin des entreprises. Enfin, tout le monde comprend bien que quand tu mets de l'argent dans une TPE de gens, tu sais même pas s'ils vont lancer la boîte. Bon, en plus, dans les cryptos, il y a même des cryptos qui sont des pré-projets, donc tu t'attends bien que ça marche ou ça marche pas. Puis après, tu en as certains qui disent, mais oui, je te jure, moi, ça va être une super formule, ma pizzeria, tout le monde va venir. Bah non, les gens viennent pas, alors c'est pas pourquoi, parce que c'était pas bien placé, machin. Donc, c'est aussi ça. Il y a une espèce de croyance, par contre, un peu enfantine, que parce que c'était technique, ça allait tout résoudre, tu vois. Il y a un peu ça. La stabilité, par exemple, les fameux stablecoins, ça me faisait marrer parce que c'est ce qu'essayent de faire tous les gens dans le monde de la finance depuis la nuit des temps. On n'a jamais réussi à créer un indice primaire, secondaire, tertiaire ou ce que tu veux, stable à long terme. Il y a toujours des moments où justement tes fondamentaux se cassent la gueule et donc ton produit dérivé se casse la gueule, tu vois. Et ça, c'est marrant parce que moi, je vois ça, je me dis, oui, c'est évident, tu t'expliques ça à un enfant, il comprend. Mais dans les cryptos, on a cru qu'il y avait un espèce de miracle parce que c'était de la technologie, tu vois. Bon, comme si les mecs qui étaient avant et qui s'occupaient à faire des produits dérivés dans le monde dit réel, ils n'étaient pas assez intelligents pour déjà trouver des algorithmes, quoi, tu vois. On a mis des milliards déjà pour régler ce problème-là. Et on ne l'a pas réglé. Parce que si tu t'achètes un risque, donc un produit dérivé sur un sous-jacent, si à un moment donné, OK, tant qu'il n'y a pas trop de risque, y a toujours quelqu'un pour te payer. Et tu as une prime de risque et tout va bien. Mais si je te dis que non, toutes tes maisons ont brûlé, comment est-ce que les assureurs peuvent payer ?
Oui, effectivement.
Je rappelle, par exemple, quand il y a eu, tu vois, des problèmes, il y a eu un moment, les assureurs, ils ont dit, bah non, on ne pourra pas rembourser. Tu sais, quand il y a eu les commerces, par exemple, rappelle-toi. Pourquoi il y a ce qu'on appelle les forces majeures? C'est qu'à un moment donné, les assureurs, ils disent, bah non, moi, je veux bien assurer 1 000 maisons, et puis tout le monde paye un peu, et puis s'il y a une maison qui brûle, je fais. Enfin, si je te fais une assurance pour 1 000 maisons qui brûlent, personne ne pourra payer. Tu comprends? Donc, le risque est toujours à un moment donné stoppé par une réalité. Et ça, une espèce de ouais, d'un truc un peu enfantin qu'on a projeté sur les cryptos. Et du coup, bah, c'est voilà, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on dit, ah bah les cryptos, c'est de la zouille. Bah non. Non, les cryptos font leur job et créent cette indépendance entre la monnaie et des institutions. Voilà. C'est surtout ça que ça fait. Donc, on n'a plus besoin de passer par une banque centrale pour avoir une logique monétaire. Bon. Mais est-ce que du coup, ça crée des logiques monétaires positives plus qu'avant? Bon, pas tant que ça, parce que finalement, la monnaie, c'est la monnaie, donc c'est une valeur, ça monte, ça descend, il y a des sous-jacents, ça marche pas. Enfin, tu vois, au fond, rien de nouveau, sauf que tu n'as plus de chef. Tu comprends? Donc, tu n'as plus personne sur qui taper. Tu ne peux pas dire, ah, c'est la faute du président, ah, c'est la faute du mec de la BCE, ah, c'est du banquier central. Bah, il n'y a plus personne. Alors, fille, tu sais quoi? On finit toujours par trouver des coupables parce que, par exemple, là, on a été chercher les fondateurs qui avaient écrit le code des différents trucs. Donc, finalement, tu as toujours quelqu'un et les humains, tu vois, ont besoin de boucs émissaires. Donc, voilà ce que tu vois, je ne sais pas si ça est clair, mais moi, au contraire, les cryptos, je pense que c'est que le début. Par contre, croire que ça monte au ciel, ben non, voilà, désolé. Et tant mieux parce que ça n'allait pas prendre toute la valeur du monde pour le capter pour quelques-uns. Donc, moi, ça ne me fait pas de peine. Je pense qu'il vaut mieux payer les gens qui font des pizzas et des gens, tu vois, à qui on va aller boire un verre et donc un barman plutôt qu'on gagne de l'argent qu'avec des cryptos, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'argent n'est pas une finalité pour moi, c'est toujours un moyen. Et les cryptos ont un peu oublié ça, tu vois. À un moment donné, c'est genre, oh, bah, je vais miner de la crypto, je vais gagner de l'argent, ça monte, et puis voilà. Mais attends, de quoi on parle, quoi? Elle vient d'où, cet argent? On revient à un truc plus normal. Et bon, et comme toujours dans ces cas-là, il va y avoir la période de tu vois, on va dire, ah là là, c'est une période dans laquelle on va dire, ah là là, c'est naze les cryptos, tout le monde va se jeter dessus. Et ceux qui resteront, c'est ceux qui étaient justement les plus résilients. Voilà. Donc, c'est pas une période sympa pour les cryptos, mais peut-être aussi, il y a eu une bulle autour de ça. Voilà, ça rectifie une situation peut-être qui était devenue un peu trop problématique, trop bullesque, trop justement ubuesque et un peu comme sur l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé. Les gens commençaient à raconter des bêtises, tu vois. Voilà.
Merci Alain pour cette analyse et n'oubliez pas, ça c'est la règle d'or de tout sur tous les marchés financiers. Je pense qu'on peut terminer, on peut clôturer le sujet par là. N'investissez que ce que vous acceptez de perdre. Voilà, ne prenez pas trop de risques, puisque c'est ce qui est ressorti avec l'histoire de Luna. Hein, je terminerai là-dessus, c'est que voilà beaucoup de personnes, comme tu disais justement, ont cru pouvoir monter jusqu'au ciel rapidement
Ah
grâce à ces
ben
cryptos et le retour à la réalité est parfois brutal. Donc protégez-vous, chers auditeurs, c'est important. Eh bien Alain, c'est l'heure de la surprise. Voilà, une note un peu
oui. Et
plus
oui, la
réjouissante.
surprise à 27 minutes, je n'ai démarré cette émission que pour ça, pour entendre.
Mais je sais Alain, je sais que voilà,
Nos
on parle de
auditeurs aussi,
différents
ceux qui
sujets,
sont
mais
restés
que.
jusqu'au bout, c'est ça. Tout
Eh
le
oui.
reste, c'est uniquement un temps pour meubler en attendant la surprise
Et
de
voilà, je suis à
moi.
découvert maintenant. Je suis à découvert. La structure de modèle du live est révélée au grand jour. Exactement. Alors, la surprise, bah la surprise. Alors, qu'est-ce que je t'ai choisi, Alain, pour le mois de mai? Donc, on parlait il y a quelques minutes justement le manque de budget, le manque de budget qui fait partie des obstacles à la transformation digitale. Eh bien, que les TPE et les PME se réjouissent. Les prêts garantis France Num, qui avaient été lancés, je le rappelle, en décembre 2020, donc peu de temps après le début de la crise sanitaire, pour soutenir justement la transformation numérique des très petites et moyennes entreprises françaises, sont prolongés jusqu'en 2023. Le programme d'aide, donc, qui est porté pour rappel, par le Fonds européen d'investissement, la Direction générale des entreprises et BPI France, devait initialement s'arrêter bah, ce mois-ci, voilà, en juin 2022. Et finalement, bah, ce n'est pas le cas. Ces prêts-là sont reportés jusqu'en fin 2023. 715 millions d'euros ont été provisionnés par le Fonds européen d'investissement et l'État français pour justement garantir ses prêts. On en a parlé vraiment plein de fois, Alain, de l'importance justement de l'État et de justement sa
Ah bah,
façon en fait
plein de fois.
d'accompagner les entreprises. Et,
Elle
voilà,
donne
et plein plein.
des euros ou elle donne des cryptos? Non, c'est en euros, c'est en
Ah non
crypto, là.
non là c'est là ce sont des euros, ils ont pas dit, ils ont pas promis des Luna et des Bitcoins et autres crypto-monnaies pour aider les entreprises. Non non là c'est de c'est ce sont des bonnes monnaies comme à l'ancienne, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle, voilà, que parce qu'il y avait un peu cet effet crise sanitaire, hein, ils avaient mis ça en place pour dire voilà, les entreprises elles ont besoin de s'équiper en outils numériques pour justement faire face à la crise et aux différents confinements. Là, on est plus ou moins sorti de la crise, hein, je prends quand même des pincettes en le disant. Et l'État, justement, dit, bah là, on va continuer à vous aider justement jusqu'en 2023. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative, toi?
Oh bah, je pense que, tu vois, j'irais même plus loin. Je pense que l'État aujourd'hui a un rôle essentiel d'investissement dans l'avenir, que ce soit pour la transformation. Il y a deux transformations majeures, il y en a trois même dans notre société. Il y a une transformation autour de la transformation écologique au sens large du terme, une transformation alimentaire et une transformation numérique. C'est les trois éléments sur lesquels on doit justement changer l'intégralité de notre stack, y compris européenne, et que pour ça, c'est même tous les investissements d'avenir qui devraient être mis dans ces trois axes pour faire que justement on vive dans un monde un peu différent et dans lequel on se projette mieux plus tard. Et avec tous les sujets, tu vois, qu'on a abordés tout à l'heure. Et tu vois, Dieu sait qu'il y aura de la résistance au changement, mais si justement on le fait de manière simple, c'est-à-dire qu'on met justement des objectifs simples et des envies simples aux gens, tu vois, pour justement, soit sur l'énergie, l'alimentation et donc le numérique, la solution sur laquelle tu viens de finir, bah, tu verras que tout le monde ira, parce que tout le monde a envie, justement, que ça bouge et que ça évolue dans le bon sens. Donc je trouve que l'État est dans son rôle quand il est justement en train de préparer l'avenir.
Merci beaucoup Alain, et voilà le sujet qui clôture cet épisode 22. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à toi Alain pour tes analyses toujours très très rafraîchissantes sur ces différentes actualités du monde numérique.
Eh bien oui, écoute, merci à toi Benoît, en tout cas d'avoir travaillé sur tous ces sujets. Donc je vous rappelle, on se retrouve tous les mois pour Au-delà du live où on traite les sujets numériques. On se retrouve également tous les vendredis pour justement Bonjour les spotters, le live plutôt vidéo du vendredi à 15h. Enfin, sauf quand je suis à Grenoble, hein, où la dernière fois
C'est
j'ai
vrai.
fait ça un peu plus tard. Écoute, j'ai profité justement du beau temps et de la famille. Et puis on a aussi d'autres émissions. Il y a le podcast des experts, C'est votre projet, c'est votre projet. Ah, voilà,
Ah, tu le fais bien.
Ah, tu vois,
Je vais en faire un jingle, hein. Attention, prépare-toi.
dans lequel on met à l'honneur des projets de gens dans le numérique, et ça fait partie aussi justement du travail qu'on fait ensemble pour mettre à l'honneur le numérique, les personnes qui le font, parce que derrière justement tout ça, il y a toujours des hommes et des femmes à hein, remettre l'humain au cœur des systèmes d'information. Faut pas oublier, c'est quand même la mission qu'on s'est donnée à Genspot. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec ces projets, ce que tu fais très bien d'ailleurs autour de ces podcasts. Voilà.
Merci beaucoup Alain, merci à vous tous de nous avoir suivis. Petit rappel, alors je ne sais pas encore, on sait pas encore avec Alain si on va faire un épisode 23 pour le mois de juillet, tout cela dépendra. Mais si jamais ce n'est pas le cas, évidemment nous serons de retour après l'été pour l'épisode de la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans le numérique.